Alors, à l'approche des élections européennes, les discours politiciens sur l'avenir de l'Union fleurissent. Pour certains, à droite comme à gauche de l'échiquier politique, l'Europe, c'est moderne, c'est l'avenir. Il faudrait avoir confiance dans les institutions européennes, leur donner plus de pouvoir, la France aurait un rôle à y jouer, etc. Mais dans cette période de crise, tout le monde, même dans le camp le plus europhile, y va de son petit couplet sur les changements nécessaires à Bruxelles. Pour les représentants des partis au pouvoir, la période électorale est riche en acrobaties langagières. Les petites phrases sur l'indépendance de la France et sa souveraineté politique se succèdent. Des proclamations d'indépendance qui s'adressent en réalité à la bourgeoisie française. Celle-ci peut compter sur son gouvernement national, prêt à piétiner les règlements européens qu'il a pourtant lui-même contribué à formuler. Mais le choix de dépasser ou non le déficit budgétaire ou de ne pas tenir compte des critères de stabilité européens n'est en rien un choix au service des travailleurs et des classes populaires. Car en France comme ailleurs, les décisions du gouvernement sont dictées avant tout par les besoins et les intérêts de sa propre bourgeoisie. D'autres politiciens, de l'extrême droite à la gauche dite radicale, jouent la carte du nationalisme et du protectionnisme. Sans surprise, c'est le Front national qui s'agite le plus sur ce terrain. Au nom des intérêts des travailleurs français, bien entendu, Marine Le Pen clame qu'il faut sortir de l'euro et parle quant à elle d'une Europe des nations souveraines. Mais du côté du Front de gauche ou du Parti communiste, le discours flirte avec les mêmes thèmes nationalistes. Sans se déclarer anti-européens, ils brandissent de prétendus intérêts nationaux qui seraient aussi ceux des travailleurs. Pour la France, pour le peuple, ou non à l'Europe américaine, pouvait-on lire sur des affiches du parti de gauche à l'automne dernier. Quant au PCF, il ne perd pas une occasion de souligner les dangers des traités et des organismes européens qui contraindraient la France à adopter des mesures d'austérité. Derrière toutes ces prises de position, il y a beaucoup de démagogie électorale. Les politiciens cherchent à refléter, dans leurs discours, l'inquiétude des travailleurs devant la détérioration de leurs conditions de vie. Et il est pratique, au moment où le gouvernement, bien français, impose des mesures qui pèsent de tout leur poids sur les classes populaires, de désigner un grand coupable extérieur, l'Europe, plus ou moins manipulée par les Américains. Placer le débat sur ce terrain, discuter sur le thème « Faut-il plus ou moins d'Europe ? Faut-il plus ou moins de protectionnisme pour la France ?» C'est en réalité une façon d'éviter le terrain de classe et de dédouaner la bourgeoisie française de la politique de combat actuellement menée contre les classes populaires, en France comme partout en Europe. Car du point de vue des conditions de travail et des conditions de vie des travailleurs, on peut dire que l'Europe est unifiée. Du nord au sud et d'est en ouest, partout règne le chômage, les bas salaires, la démolition des services publics. À des rythmes plus ou moins accentués, en suivant des voies plus ou moins variées, la bourgeoisie a imposé un recul général des conditions de vie. Et cela, que les pays en question fassent ou non partie de l'Union européenne, qu'ils soient ou non membres de la zone euro. L'âge de la retraite a reculé dans toute l'Europe. Partout, au nom de la modernisation du travail, on détricote les législations qui offrait encore une petite protection légale aux travailleurs contre les licenciements ou l'aggravation des conditions de travail. Des pays les plus riches aux pays les plus pauvres, les services publics sont démolis, à commencer par ceux de la Grèce, de l'Irlande et du Portugal, victimes des attaques spéculatives sur la dette souveraine. Ce qui unit aujourd'hui les classes populaires de toute l'Europe, c'est la crise. Dans cette situation, il est vital que la classe ouvrière ait une politique indépendante. Nous avons défendu, lors des récentes élections municipales, un programme politique pour le camp des travailleurs. Une perspective qui dépassait l'échelle locale et voulait rappeler les objectifs politiques vitaux que la classe ouvrière devra imposer dans ses luttes futures. De la même manière, les communistes révolutionnaires ont une politique à défendre par rapport à l'Europe. Elle est à l'opposé de ce qu'est l'Union européenne de la bourgeoisie, qui n'existe que dans la mesure où elle peut servir les intérêts des grands groupes capitalistes et s'arrête là où ces mêmes grands groupes se retranchent derrière leur État national pour préserver leurs intérêts particuliers. Le camp des travailleurs doit faire entendre une autre voix, celle d'une seule et même classe sociale, aux intérêts communs à l'échelle européenne comme à l'échelle du monde. Dès sa naissance, le mouvement ouvrier conscient a dû s'adresser aux opprimés du monde entier, et il a eu la préoccupation de s'organiser en tant que classe, en dépassant les frontières nationales. Aujourd'hui, à l'heure où l'économie est mondialisée depuis longtemps, où les capitaux voyagent en quelques secondes d'un bout à l'autre de la planète, et où une même poignée de grands groupes exploite des travailleurs aux quatre coins du monde, il est d'autant plus nécessaire pour les travailleurs de renouer avec l'internationalisme. Des décennies de trahison, d'abord de la part de la social-démocratie, puis de celle des partis communistes staliniens, ont dévoyé toutes les idées du mouvement ouvrier, à commencer par la conscience que la classe ouvrière ne pouvait renverser le capitalisme et imposer un nouvel ordre social qu'à l'échelle mondiale. Dans la discussion sur l'Europe, nous voulons quant à nous affirmer, en opposition avec toutes les idées protectionnistes et anti-Europe, que notre combat, celui du camp des travailleurs, ne peut être qu'internationaliste. Et pour développer ce sujet, je passe tout de suite la parole à Nathalie Rossi.
L'Union européenne regroupe aujourd'hui 28 États. L'un des derniers traités signés, le traité de Lisbonne, a été ratifié en décembre 2007. Sous le titre ronflant « Pour une Europe du XXIe siècle », il mentionne les 27 chefs d'État signataires de l'époque, parmi lesquels pas moins de 5 majestés et une altesse royale, illustrant bien que si l'Europe entre effectivement dans le XXIe siècle, c'est en traînant dans ses bagages les vieux débris hérités d'un lointain passé réactionnaire. Ce traité, il a fait rentrer par la fenêtre la Constitution qui avait été mise à la porte, car rejetée par référendum en France et aux Pays-Bas. À peine modifiée, le premier article proclame que l'Union européenne, je le cite, « s'inspire des héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe, à partir desquels se sont développées les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, l'égalité et l'état de droit. » La réalité est bien éloignée de cette fable qui fait de l'Europe le berceau des droits de l'homme, de la liberté et de la démocratie. Faut-il rappeler qu'elle a surtout, au fil des siècles, vu les alliances éphémères succéder aux guerres et aux annexions, déclenchant à leur tour d'autres guerres et d'autres alliances, une nation cherchant à conquérir un territoire chez son voisin, l'autre à se tailler un accès à la mer, une autre encore à asseoir sa domination économique sur une zone donnée, etc. Quant aux valeurs universelles de cette petite Europe divisée, elles ont surtout consisté en pillage et en conquête aux quatre coins de la planète, pour soumettre l'ensemble du monde à l'exploitation et à la domination des bourgeoisies européennes les plus puissantes. La circulation des marchandises et des hommes fut pourtant une réalité dès les premières civilisations, que le développement de la bourgeoisie commerçante accentua encore. Remarquons en passant que le fameux héritage chrétien revendiqué par le traité de Lisbonne servit de prétexte, entre autres ignominies, aux croisades, au nom de la lutte contre les infidèles, de véritables pillages et mises à sac furent ainsi commis avec la bénédiction de l'Église et permirent à certains de ces humanistes européens de s'enrichir considérablement. Dès cette époque, alors que l'ordre féodal régnait encore et que les nations n'émergeaient qu'avec difficulté, la bourgeoisie avait déjà tissé des liens économiques, commerciaux, financiers à l'échelle de l'Europe et même au-delà. Il s'y développa également une nouvelle activité bourgeoise promise à un grand avenir, la banque. Les premières dynasties de financiers naquirent de la nécessité, pour ce commerce à grande échelle, de se doter de moyens de paiement reconnus d'un bout à l'autre de l'Europe et s'établir dans toutes les villes importantes du continent de l'époque. Mais même si des relations économiques et culturelles existaient déjà à l'échelle européenne, c'est sur une base nationale que la bourgeoisie connut son véritable essor. Elle avait en effet besoin, pour se développer, d'un État centralisé, lui offrant un marché national protégé par une politique douanière, militaire et commerciale. Et c'est aussi ce qui permit son développement industriel. La révolution industrielle, qui permettait de produire à une échelle inconnue jusqu'alors, accentua la contradiction fondamentale de l'économie bourgeoise. Une économie impliquant des échanges, une interdépendance à l'échelle planétaire, mais basée sur la propriété privée des moyens de production et ne fonctionnant que pour enrichir les capitalistes, ce qui implique la concurrence entre eux. Une concurrence d'autant plus féroce que les marchés nationaux offerts par les petits pays européens furent bien vite trop étroits pour la production de chaque bourgeoisie. Bien avant la naissance officielle du marché commun, puis de l'Union européenne, les économies du vieux continent étaient de fait interdépendantes, leurs peuples et leurs cultures mêlées par des siècles d'histoire commune. Cette réalité, elle était évidente aux yeux des militants ouvriers de l'époque, qui voyaient les ouvriers se déplacer là où se trouvait le travail, des campagnes vers les villes, mais aussi des pays les plus pauvres d'Europe vers les plus riches et les plus développés, France, Angleterre, Allemagne, auxquels s'ajoutèrent, hors d'Europe, les États-Unis. Et c'est sur une base internationale que le mouvement ouvrier a pris son essor, la première internationale ayant précédé le développement des partis nationaux. Les militants ouvriers du début du XXe siècle ne se considéraient pas autrement que comme les militants d'une internationale ouvrière et militaient d'ailleurs dans le pays où le vent de l'histoire les avait placés, telle Rosa Luxembourg, polonaise, fondatrice de la social-démocratie en Pologne, mais aussi dirigeante du parti allemand et de la Deuxième Internationale. Et même parmi les intellectuels les plus progressistes de la bourgeoisie, certains réalisaient que les nations étaient déjà des cadres trop étroits pour le niveau de développement économique atteint par l'Europe et qu'ils ne correspondaient de surcroît pas aux réalités de peuples largement imbriqués les uns dans les autres. C'était le cas en particulier parmi les intellectuels d'Europe centrale qui voyaient l'avenir dans des ensembles plus vastes que les nations. Mais le développement du mode de production capitaliste, loin de résoudre la contradiction entre des cadres nationaux trop étroits et l'expansion des forces productives, poussa au contraire la concurrence jusqu'à son expression ultime, la guerre. Les conquêtes coloniales, leur cortège de massacres, de pillages de l'économie locale, naquirent de la nécessité pour les bourgeoisies européennes de se tailler de plus grands marchés. La concurrence entre des trusts impérialistes toujours plus grands et productifs impliquait de trouver ailleurs, et en concurrence les uns avec les autres, des accès aux matières premières et des débouchés pour leurs marchandises sur des marchés plus vastes. Ils luttèrent donc, les uns contre les autres, pour se partager le monde, chaque nation le faisant au bénéfice de sa propre bourgeoisie. Dans un texte de 1926, Trotsky revenait en ces termes sur les causes de la Première Guerre mondiale et sur ses conséquences pour l'Europe. Je le cite. « Les forces de production créées par le capitalisme ne pouvaient plus tenir dans le cadre des formes sociales du capitalisme, y compris le cadre des États nationaux. De là la guerre. Quel a été le résultat de la guerre pour l'Europe ? Une aggravation considérable de la situation. Nous avons maintenant les mêmes formes sociales capitalistes, mais plus réactionnaires, les mêmes barrières douanières, mais plus hérissées d'obstacles, les mêmes frontières, mais plus étroites, les mêmes armées, mais plus nombreuses, une dette accrue, un marché restreint. Effectivement, la Première Guerre mondiale, loin de résoudre les contradictions de l'impérialisme, aggrava les choses.
Aucun des impérialismes vainqueurs ne put sortir son épingle du jeu et imposer aux autres une Europe unie sous sa domination. L'ordre européen, sanctionné par le traité de Versailles, ne réglait aucun des problèmes qui avaient conduit au premier affrontement mondial. Au contraire, il préparait le deuxième, l'impérialisme allemand vaincu, ne pouvant se soumettre aux conditions dictées par les vainqueurs, et les prétentions de pays européens de seconde zone, comme l'Italie, restant insatisfaites. L'Europe ne sortait pas plus unie de la paix de Versailles. 17 nouveaux États naquirent sur les ruines des empires centraux. Les frontières furent tracées, soi-disant dans le respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, en réalité, suivant les équilibres fragiles entre les intérêts et les prétentions des impérialismes vainqueurs. La seule lueur d'espoir pour les peuples, au sortir de cette boucherie mondiale, elle vint du prolétariat. Née des souffrances même de la guerre, la révolution russe de 1917 fut le point de départ d'une vague révolutionnaire qui toucha le continent européen. La victoire de la révolution dans d'autres pays aurait pu permettre la reconstruction de l'économie sur d'autres bases que celles de la concurrence et du profit impérialiste dans des États-Unis socialistes d'Europe. Mais la révolution russe resta finalement isolée et défaite pour longtemps, ce qui permit le développement puis la prise du pouvoir de la bureaucratie stalinienne en URSS. Le prolétariat européen paya cher cette défaite, car quelques années plus tard, la crise et la peur de la révolution livrèrent l'Europe décadente à des régimes de dictature qui préparaient la Seconde Guerre mondiale. À sa manière forte, Hitler imposa une forme d'unité à l'Europe en imposant sa domination militaire. Les États d'Europe centrale, de la Pologne aux Balkans, furent placés sous administration directe par son armée et son régime permit au grand capital allemand d'exercer sa domination économique sur une large partie du vieux continent. Mais il n'eut pas les moyens de soumettre l'impérialisme britannique. Quant à la France, son autre rival impérialiste, Hitler parvint à la soumettre militairement, mais toute une partie de l'empire colonial français resta hors de sa portée. Et l'intervention militaire des États-Unis conduisit finalement à une nouvelle défaite de l'impérialisme allemand. En moins d'un demi-siècle, la division du vieux continent en États impérialistes rivaux entraîna donc le monde dans deux guerres dont les millions de morts, les destructions massives, ne servirent même pas à surmonter les contradictions et les absurdités. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'unité européenne était une nécessité vitale. Il fallait reconstruire les moyens de communication, les usines d'une Europe dévastée. Et sur le plan politique, il fallait éviter que la Seconde Guerre mondiale ne débouche, à l'image de la première, sur une vague révolutionnaire. Pour rétablir l'ordre bourgeois sur ces champs de ruines, le camp impérialiste put d'ailleurs compter sur la complicité de l'Union soviétique stalinienne. Au niveau économique, il était impossible de reconstruire et de remettre les usines en marche sans mettre en commun des moyens, des matières premières et des secteurs fondamentaux dispersés entre plusieurs pays. Cela entraîna la nécessité pour les impérialismes rivaux de s'entendre, au moins dans une certaine mesure. La CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, en est une illustration. Ce marché unique du charbon et de l'acier entre 6 États européens, dont la France et l'Allemagne de l'Ouest, créé en 1951, permit de moderniser la production et de réduire les coûts dans ces deux secteurs essentiels. L'idée que les problèmes ne pouvaient se résoudre sans un certain degré d'union était présente chez certains politiciens et intellectuels de la bourgeoisie européenne. Parmi ces pères de l'Europe, certains fondèrent en 1946 la Ligue européenne de coopération. Elle fut fort à propos surnommée « Ligue des banquiers », car elle regroupait essentiellement des hommes d'affaires européens, conscients de la nécessité de trouver des solutions, à l'échelle de l'Europe, aux problèmes posés par la reconstruction. Quant à Jean Monnet, l'un des idéologues de la construction européenne, il écrivait en 1944, je le cite, « Les pays d'Europe sont trop étroits pour assurer la prospérité que les conditions rendent possible et par conséquent nécessaire. Il leur faut des marchés plus larges. Cette prospérité et les développements sociaux indispensables supposent que les États d'Europe se forment en une fédération ou une entité européenne qui en fasse une unité économique commune. En représentant éclairé de la bourgeoisie, Jean Monnet avait conscience que le marché commun européen était nécessaire aux trusts impérialistes du continent. Mais en réalité, l'impulsion véritable vers la première forme d'union économique européenne, elle vint des États-Unis. Ils étaient d'autant plus prêts à appuyer une libéralisation généralisée des échanges que leur économie, leur bourgeoisie, était la mieux à même d'en profiter. Et le plan d'aide économique proposé à l'Europe par les États-Unis en juin 1947, le plan Marshall, allait dans ce sens. Les crédits à très faible taux d'intérêt du plan facilitaient la pénétration des capitaux américains non seulement en Europe, mais dans les territoires coloniaux. Comme le faisait remarquer un journaliste français à l'époque, je le cite, « Le plan Marshall va essentiellement permettre à l'Europe d'acheter américain ». Le plan prévoyait également l'accès des trusts américains aux matières rares ou stratégiques des pays bénéficiaires, ainsi que leur association à leur exploitation. Et l'autre condition posée par les États-Unis fut que l'aide soit octroyée à un organisme unique pour l'ensemble des pays européens. C'est ainsi que naquit la première structure européenne, en 1948, l'OECE, Organisation européenne de coopération économique. Née sous impulsion américaine, elle jeta les bases d'un marché plus unifié, constituant une arène à la dimension des plus grands trusts. Le traité de Rome, signé en 1957 entre les 6 pays membres de la CECA, institua la Communauté économique européenne et marqua la naissance officielle de ce qui allait aboutir, plus de 60 ans plus tard quand même, après bien des hésitations, des avancées à pas de tortue, à l'Union européenne de 28 pays actuels. Loin d'être l'œuvre d'idéalistes visionnaires voulant apporter la paix et la prospérité aux peuples d'Europe, cette union, elle est le résultat des calculs, des tractations des banquiers et des industriels, dont l'intérêt des peuples est le dernier des soucis, mais qui ont conscience qu'ils ne peuvent se passer d'une certaine forme d'entente. Et cette interdépendance, elle est allée croissant, et elle est encore plus grande aujourd'hui. Les chiffres du commerce extérieur de l'Union européenne sont de ce point de vue éloquents. Le marché unique européen représente près de 32% des exportations mondiales de marchandises et 42% des exportations mondiales de services. Mais c'est en réalité à l'intérieur même de l'Europe que les échanges sont les plus développés. D'après les chiffres d'Eurostat, l'agence de statistiques européenne, les deux tiers des échanges de l'Union se font entre les pays membres. Et une bonne partie de ce commerce intra-européen consiste en exportation et importation au sein d'une même entreprise ou entre une entreprise et ses sous-traitants. L'impossibilité d'exister autrement qu'à l'échelle européenne est évidente pour quelques secteurs de pointe où la concurrence est féroce et les coûts de production élevés. Le secteur aéronautique illustre tout à la fois la nécessité de collaborer à l'échelle européenne pour l'ensemble des groupes industriels et toute la difficulté pour eux de le faire sans abandonner pour autant la béquille et la protection que représente son propre État national. C'est ce qui explique l'accouchement long et difficile qui finit par donner naissance à l'actuel Airbus Group, ex-EADS. Les premières discussions entre gouvernements et industriels européens du secteur aéronautique et spatial datent des années 1960, alors que les États-Unis dominaient largement le marché et que le fossé technologique se creusait entre les entreprises européennes et les américaines comme Boeing, McDonnell Douglas ou Lockheed Martin. En 1965, eurent lieu à la fois les premiers contacts entre des entreprises allemandes, françaises et britanniques et un mouvement de concentration des capitaux à l'échelle nationale dans chacun de ces pays. Différents groupes privés fusionnèrent en une seule grande entreprise, arrosée directement ou indirectement par l'argent public. En France, cela donna le groupe public aérospatial. Au bout du compte, en 1999, après d'interminables négociations, les gouvernements allemands et français annoncèrent la naissance de EADS, issue de la fusion d'aérospatial Matra pour la France et de Daimler Chrysler Aerospace en Allemagne. La répartition des rôles au sein du groupe EADS, avec une direction à deux têtes, allemande et française, un siège plus ou moins fictif établi à Amsterdam pour ne fâcher personne, et de constants allers-retours entre eux, illustrait le fragile équilibre entre chacune des entreprises nationales. La presse économique bourgeoise attribuait cette situation aux enjeux politiques, regrettant que la politique fasse obstacle à l'économie, pour reprendre les propos d'un journaliste allemand. Il est vrai que les gouvernements français et allemands avaient des intérêts politiques à défendre. Chacun voulait démontrer à son opinion publique qu'il était le meilleur pour négocier l'implantation de telle ou telle usine sur son territoire plutôt que sur celui du voisin, que les emplois créés le seraient en France plutôt qu'en Allemagne et inversement. Mais sur le fond, les deux gouvernements œuvraient surtout pour que les intérêts de leur propre bourgeoisie ne soient pas lésés par l'incontournable association. Car si un tiers environ du capital est public, avec 12% pour chacun des États français et allemands et une petite participation de 4% pour l'État espagnol, eh bien les 70% restants font la fortune d'actionnaires privés. Et ce sont les groupes capitalistes Matra et Lagardère en France, Daimler Chrysler en Allemagne, qui ont vu les milliards tomber du ciel. Aujourd'hui, au bout de 13 ans, la direction du groupe a été simplifiée et les super-profits sont au rendez-vous, de même que les suppressions d'emplois. Le richissime Trust européen a annoncé au cours de sa dernière journée investisseur un objectif de 30 à 40% de taux de redistribution aux actionnaires, objectif qui se traduit par le plan de réorganisation annoncé qui entraînera 5 800 suppressions d'emplois dans les secteurs considérés comme les moins rentables aux yeux des actionnaires, c'est-à-dire ceux dont le taux de profit n'est pas encore assez élevé pour eux. Alors oui, l'économie capitaliste, elle est depuis longtemps non seulement européenne, mais mondiale. Les entreprises allemandes importent depuis les ports belges et néerlandais, les produits pétrochimiques fabriqués en France sont exportés vers l'Italie et l'Allemagne, les banques slovaques sont sous le contrôle des banques autrichiennes, et d'un bout à l'autre de l'Europe, à défaut de réussir à les prononcer correctement, on connaît quelques mots de suédois comme Björnloka ou Lovbackrein, je me suis entraînée, respectivement tapis et table d'appoint de la marque IKEA, que l'on peut acheter à Paris, Rome ou Berlin, autant qu'à Tokyo. Les grands trusts, ils se livrent bataille à l'échelle planétaire, et pour ce qui concerne les trusts français, allemands ou britanniques, il est impensable de jouer dans cette cour des grands sans bénéficier d'une assise européenne, non seulement au niveau du marché intérieur sur lequel ils peuvent compter, mais même sur le plan de la production. Alors lorsque des politiciens de tous bords, y compris au pouvoir comme Montebourg, agitent des recettes protectionnistes ou parlent de relocalisation pour protéger les emplois des travailleurs en France, il ne s'agit pas seulement de propos réactionnaires, mais tout bonnement d'une utopie irréalisable, car inconciliable avec le stade de développement atteint par l'économie capitaliste. Malgré la nécessité d'une unité économique commune, comme l'appelait Jean Monnet, il fallut pourtant des dizaines d'années pour que les tentatives de regroupement dépassent de simples accords limités à certains secteurs de production et à quelques pays européens, pour finir par constituer cette Union européenne, qui englobe donc 28 pays sur les 50 États, quand même, de ce que l'on s'accorde à désigner comme l'espace géographique européen. Car si le morcellement du continent européen en des dizaines d'États créait bien des obstacles pour les grands trusts capitalistes, aucune bourgeoisie ne voulait pour autant abandonner les avantages et la protection exclusive que lui offrait son État national. Et chacune voulait que les règles du jeu d'une économie européenne unifiée et d'un marché commun la favorisent aux dépens du voisin. Au cours des 60 dernières années, l'Union européenne a donc avancé à petits pas, tentant de trouver un terrain d'entente précaire constamment soumis à discussion, pour doter les différents grands groupes capitalistes d'un espace économique adapté, tout en conciliant les intérêts particuliers de chacun. Les droits de douane ont été supprimés entre ces 28 membres, et la libre circulation des marchandises, des services et des capitaux a été établie. Quant à la libre circulation des hommes, elle reste bien plus limitée. Et si les riches du monde entier circulent librement, tant il est vrai qu'un compte en banque bien garni reste le meilleur des passeports, l'accès aux pays riches du continent européen est un parcours du combattant pour les travailleurs, y compris européens, lorsqu'ils viennent des pays les plus pauvres du continent. Et ne parlons pas des immigrants venant des pays pauvres d'Afrique ou d'Asie qui risquent leur vie, et la perdent parfois, en tentant de franchir les murs et les barbelés érigés autour de l'Europe. Même du point de vue des marchandises et de la production, l'Union européenne bourgeoise est obligée en permanence de tenir compte de la politique nationale de chacun des États qui la composent. Les différences de normes et autres réglementations nationales ont entraîné au fil des décennies des discussions comme celle sur le type de produit laitier ayant le droit, dans le marché commun, de s'appeler fromage, les réglementations en vigueur n'étant pas les mêmes dans tous les pays. D'âpres débats qui ne relèvent pas seulement de culture gastronomique locale. Car chaque État membre, en défendant des normes nationales, favorise en réalité sa propre bourgeoisie et pas seulement de petits artisans moulant leur camembert au lait cru à la louche. En 1992, un nouvel organisme européen, un de plus, a été créé pour tenter d'harmoniser un peu tout cela. Ce comité européen de normalisation déclencha les protestations de politiciens anti-européens contre le danger de voir l'Europe mettre son nez dans le roquefort français, la choucroute allemande ou les olives grecques pour leur imposer des normes de technocrates. En réalité, ce comité européen de normalisation tente de concilier des intérêts divergents et se caractérise donc par la recherche de la plus petite règle commune, ou en tout cas la moins contraignante pour la bourgeoisie. Il s'est d'ailleurs ouvert aux représentants des entreprises qui peuvent y faire entendre leurs exigences et, comme le disent les statuts du comité, orienter les décisions. Et les décisions en question, elles sont à l'image de toutes celles prises par les institutions européennes, pas bien contraignantes pour la bourgeoisie. Elles se limitent en effet, je cite, à poser des exigences essentielles, dont le comité s'empresse aussitôt de limiter la portée, puisqu'il précise « chaque fabricant est libre d'appliquer les normes harmonisées ou d'autres ». Il est également, je cite à nouveau, « libre de choisir parmi les différentes procédures d'évaluation de la conformité ». En clair, les industriels, dans pratiquement tous les secteurs, restent libres d'appliquer les normes européennes ou de se tourner vers les normes nationales si elles sont plus avantageuses pour eux. Même liberté en ce qui concerne le contrôle, puisque chaque État est libre de mettre en œuvre la procédure de son choix. Décidément, la dictature des technocrates de Bruxelles a la main bien douce quand il s'agit de caresser les grands groupes capitalistes dans le sens du poil. La grande réalisation de la bourgeoisie à l'échelle de l'Europe, c'est donc le marché unique, symbolisé par la suppression des droits de douane entre les pays membres. Mais même cette unité reste bien médiocre quand chaque État national affiche sa propre fiscalité. Tous ces États bourgeois ont en commun un même credo pour remplir leurs caisses respectives. De ce point de vue-là, l'union est faite, il faut faire payer la population. Depuis le début de la crise financière de 2008, tous ont fait grimper le taux de l'impôt le plus injuste qui soit, la TVA, puisqu'il est payé sur tous les biens de consommation et de la même manière, quel que soit le revenu. Mais les taux de TVA restent différents d'un pays à l'autre, allant de 18% à Malte, par exemple, jusqu'à 27% en Hongrie. Quant au taux réduit, il varie également et ne s'applique pas aux mêmes produits suivant les endroits, suivant les pays, parce qu'il s'agit pour chacun de favoriser ses propres secteurs nationaux. Il en découle tout un empilement de règles compensatoires, de taxes supplémentaires, de ristournes, afin de réglementer les conditions de concurrence entre entreprises européennes. Ainsi, répondre à la question qui pourrait avoir l'air simple, où doit-on taxer une marchandise échangée au sein de l'Union européenne, s'avère assez compliqué. Exemple. Une machine-outil italienne, installée par l'entreprise italienne qui l'a vendue, dans l'usine roumaine qui l'a achetée, sera soumise à la TVA roumaine. Jusqu'ici, tout va bien. En revanche, si la machine est installée en Roumanie par l'acquéreur roumain lui-même, c'est la TVA italienne qui s'applique, à moins que la machine ne soit livrée à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train, auquel cas c'est de toute façon la TVA du lieu de départ qui compte. Et je vous fais grâce de ce qui arrive si d'aventure la machine-outil italienne voyage par la route sur un camion appartenant à un transporteur belge mais affrété par une compagnie allemande. Rien d'étonnant à ce que le dernier rapport de la Commission européenne sur la taxation au sein de l'Union constate, je cite, « la fragmentation du système de TVA au sein de l'Union en 28 systèmes de TVA nationaux est le principal obstacle à l'efficacité des échanges intra-Union européenne ». La seule harmonisation dont a été capable l'Union européenne sur le plan fiscal a été de créer un taux de TVA normal minimal à 15% et de laisser ensuite chaque État agir à sa guise. Quant à l'établissement d'un guichet unique, ne serait-ce que pour simplifier le paiement de la TVA en Europe, ce n'est qu'un projet pour l'horizon 2015. Car même si cette absence d'harmonie complexifie les échanges et entraîne des coûts supplémentaires, chaque État veut rester maître de sa fiscalité, qui lui permet de remplir ses caisses et du coup de venir en aide à sa propre bourgeoisie en mettant en œuvre sa propre politique d'exemption et autres cadeaux fiscaux au patronat. Malgré tous les obstacles, une partie de l'Union européenne est tout de même parvenue à se doter d'une monnaie unique. Disons avant tout que malgré toutes les limites de cette création, l'existence d'une monnaie unique est un avantage évident face à l'absurdité que représente le fait de devoir changer 3 fois de monnaie pour parcourir quelques centaines de kilomètres. Mais comme tout progrès potentiel réalisé dans le cadre de cette société capitaliste sénile, la monnaie unique charrie toutes les tares de ce système. Elle a d'abord eu bien du mal à naître. Presque un demi-siècle entre la volonté proclamée par le traité de Rome de 1957 d'aller vers une politique monétaire commune et l'adoption officielle de l'euro pour les transactions financières en 1999. Une lenteur qui s'explique par la difficulté de chaque État d'abandonner le contrôle de sa monnaie, le contrôle de son émission, qui constitue autant de moyens de maîtriser sa politique budgétaire, par exemple en ayant recours à la dévaluation. Cependant, l'existence de plusieurs monnaies nationales pénalisait le commerce européen et favorisait le règne du dollar sur le commerce international. Et l'existence de plusieurs monnaies, dont les taux de change entre elles variaient, aggravait la spéculation et surtout pouvait affecter les profits des entreprises et rendre plus difficiles les projets à long terme. Pour apporter un peu de stabilité monétaire, les puissances impérialistes européennes tentèrent d'abord, dans les années 70, d'instaurer des règles communes pour limiter les variations des taux de change. Au final, la naissance de l'euro se fit au travers de longues années de marchandage, de tractations entre les principaux pays d'Europe en fonction du poids de leurs économies respectives. Dans ce domaine, comme dans tous les autres, ce sont les puissances impérialistes européennes les plus développées qui ont imposé leurs lois aux autres. Pour que la monnaie unique évite les dérapages, il fallait que chaque État contrôle son déficit budgétaire. Défini fin 1991, les fameux critères de Maastricht imposaient, entre autres règles, le principe que chaque État candidat à la monnaie unique devait avoir un déficit public inférieur à 3% de son PIB et une dette publique ne dépassant pas 60% de ce PIB. Ce sont les pays les plus riches qui ont fixé ces critères, bien sûr, et décider de quel pays les satisfaisait. Remarquons au passage quand même que ces critères de Maastricht, présentés aux populations comme incontournables et entraînant la mise en place de mesures d'austérité pour les satisfaire, ont été allègrement piétinés par ces mêmes puissances impérialistes qui ont laissé exploser leur dette publique pour pouvoir renflouer les caisses des banquiers. Unique, cette monnaie européenne ne l'a jamais été réellement. Elle ne concerne en effet que 18 des 28 membres de l'Union. Beaucoup de pays, notamment parmi les nouveaux venus de l'Est, c'est-à-dire les plus faibles économiquement, ne remplissent pas encore les critères nécessaires aux yeux de la Banque centrale européenne pour intégrer la zone euro. Pour d'autres, c'est un choix. Et ils bénéficient d'un accord spécial pour ne pas en faire partie. C'est le cas de l'un des pays impérialistes les plus puissants d'Europe, la Grande-Bretagne. Il se trouva des commentateurs pour attribuer cette politique à un particularisme insulaire. Coupés du continent sur leur île, les Anglais ne feraient rien comme tout le monde par principe. En réalité, si particularisme il y a, il tient plutôt au fait que l'économie anglaise est bien plus liée au marché mondial extra-européen que celle des autres puissances du continent, et qu'une grande partie des capitaux de sa bourgeoisie se trouve à l'extérieur de l'Europe. Parmi les trois grandes puissances européennes, la Grande-Bretagne est celle dont l'économie est proportionnellement la moins présente dans les échanges au sein de l'Union. C'est donc tout simplement le respect des intérêts économiques de sa bourgeoisie qui l'a conduite à faire cavalier seul et à conserver sa propre monnaie. L'incapacité de l'Union à ce jour à établir une véritable monnaie européenne est révélatrice, car cette monnaie unique, partielle, n'a pas entraîné une plus grande unification politique et économique du continent européen. La concurrence et les rivalités demeurent, et chaque État reste maître de sa politique budgétaire. Depuis le début de la crise financière de 2008, ces disparités sont encore plus évidentes. Pour sauver les banques, chaque État a fait exploser sa dette publique, s'endettant formidablement auprès de ces mêmes banques pour leur sauver la mise. En devenant elles-mêmes objet de la spéculation financière, les dettes souveraines, c'est-à-dire les dettes des États, ont mis en évidence les écarts entre les pays membres de la zone euro. On a pu mesurer alors à quel point l'euro, en tant qu'instrument de crédit, n'avait pas la même valeur pour les financiers selon qu'ils prêtaient à l'Allemagne ou à la Grèce, par exemple. Suivant le bon vieux précepte « on ne prête qu'aux riches », les spéculateurs prêtent à des taux d'intérêt avantageux aux États dont ils pensent que l'économie est la plus solide. D'où les écarts importants entre les taux d'intérêt des emprunts à 10 ans, autour de 3% pour l'Allemagne, et qui ont pu grimper jusqu'à 7% pour l'Italie, sans parler de la Grèce et de l'Irlande, où ils atteignaient 10% au plus fort de la crise de la dette à l'été 2012. Dans ce gigantesque casino que représente l'emballement financier de l'économie capitaliste, les dettes des États sont devenues une source de profit pour quelques grandes banques et fonds spéculatifs et pour leurs actionnaires, qui ont les moyens d'y miser gros. Et ce sont essentiellement des banques européennes qui investissent sur la dette des États de la zone euro. Les banques et autres institutions financières françaises détenaient par exemple à elles seules 26% de la dette portugaise en 2010. Et contrairement aux mensonges crasseux colportés par l'extrême droite ici, les responsables des déficits publics énormes ne sont pas les populations grecques, irlandaises ou espagnoles qui auraient vécu au-dessus de leurs moyens en comptant sur la générosité de l'Europe pour renflouer leurs caisses. Non seulement le gonflement de la dette publique ne leur a pas profité, mais elles le payent par des politiques d'austérité drastiques. Ce sont les dirigeants et derrière eux les actionnaires de banques comme BNP Paribas, Société Générale ou encore Natixis pour ce qui est des banques françaises, qui sont les bénéficiaires de cette énorme dette qu'elles alimentent par leur spéculation et dont elles retirent toujours plus de bénéfices, quitte à enfoncer encore plus l'ensemble de l'économie dans la crise, voire à risquer son effondrement pur et simple. L'explosion de la dette publique, qui permet toute cette spéculation financière, n'est pas due à l'Europe ou à la monnaie unique. Elle est l'une des manifestations de la sénilité de l'économie capitaliste. En spéculant sur l'augmentation de la dette des États, en contribuant à fragiliser leur économie et leurs finances, les capitalistes ont rendu les critères de convergence de la monnaie unique de plus en plus intenables, au point que la disparition de l'euro a sérieusement menacé. Pour l'heure, les gouvernements allemands et français se sont accordés pour défendre l'euro et ont fait la démonstration aux banquiers que la Banque centrale européenne était prête à intervenir pour ne pas laisser les pays les plus fragilisés, comme la Grèce ou l'Irlande, se retrouver en faillite complète. Des interventions payées par les peuples, puisqu'en contrepartie des aides de la fameuse Troïka, composée de la Commission européenne, la BCE et le FMI, les gouvernements ont imposé des plans d'austérité dramatiques et fait renaître la misère dans les quartiers populaires d'Athènes ou de Dublin. Ils ont même sanctionné ces décisions par un nouveau traité, le TSCG,
traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire. Beaucoup de mots pour envelopper la continuité des mesures d'austérité qu'il faudra que les peuples payent pour que les capitalistes soient assurés de continuer à faire des profits. Mais, de même qu'en son temps, un Sarkozy s'était engagé à moraliser la finance, ou qu'un Hollande s'était déclaré l'ennemi de la finance, eh bien le Conseil de l'Europe s'est découvert lui aussi une âme de justicier contre le côté obscur du capitalisme. Réuni en juin 2012, il a brutalement pris conscience, je le cite, « d'un dangereux lien existant entre les banques européennes et la dette publique des États ». Il a donc instauré une union bancaire censée surveiller l'activité des principales banques européennes et les obliger à se renflouer si besoin sur leurs fonds propres. Il n'a cependant pas fallu bien longtemps pour que les banquiers obtiennent l'assouplissement de ces règles qui ne sont même pas encore appliquées. Mais on n'est jamais trop prudent. Ainsi, les banques ont d'ores et déjà obtenu la révision du mode de calcul de leurs fonds propres, à leur avantage bien sûr, et quant à la règle censée les obliger à détenir suffisamment de liquidités pour payer elles-mêmes en cas de problème, elles ont obtenu un très large délai d'application, si tant est que c'est appliqué un jour. Autant dire que l'intense surveillance promise par le Conseil de l'Europe n'empêchera aucun banquier de dormir sur ses deux oreilles et aucun spéculateur de continuer à spéculer. Les institutions de l'Union reflètent l'équilibre précaire entre puissance européenne et l'Europe politique est une façade démocratique qui ne prend aucune des décisions qui comptent. Il a fallu attendre 1979 pour que le Parlement européen soit élu au suffrage universel. Le fait que pendant plus de 25 ans, au moment même où le marché commun se mettait en place, les dirigeants européens se soient passés de la caution des électeurs en dit long. Leur union, ils l'ont construite sans même faire semblant de consulter les populations concernées. Aujourd'hui, le Parlement européen a plus de pouvoir. Le traité de Lisbonne lui accorde un pouvoir dit de codécision dans des domaines comme la politique énergétique, l'agriculture, l'immigration, la justice. Mais comme son nom l'indique, codécision signifie que ce pouvoir législatif est soumis à l'approbation du Conseil des ministres. Ce dernier étant formé d'un représentant de chaque gouvernement de l'Union, les États, en fonction de leur poids et de leur puissance, sont assurés de pouvoir continuer à défendre les intérêts particuliers de leurs bourgeoisies respectives si d'aventure les décisions européennes venaient à les léser. Quant au droit de regard du Parlement sur les décisions budgétaires, eh bien c'est un droit de regard justement, et rien de plus. Les institutions de l'Union européenne ne peuvent pas être autre chose que les institutions du capital, autant que celles des États nationaux qui la composent, et avec encore moins de pouvoir, puisqu'en dernier recours, et en particulier en cas de désaccord, c'est le Conseil des ministres qui tranche. Alors quand les souverainistes de gauche dénoncent, à juste titre, l'absence de démocratie à l'échelle de l'Europe, ils trompent les travailleurs, en prétendant que cette démocratie serait plus réelle à l'échelle nationale. Car en France, comme ailleurs, ce ne sont pas les élus au Parlement qui prennent les décisions. Tout au plus sont-ils priés de donner leur aval. De ce point de vue, le Parlement européen est réduit à la même impuissance, n'étant rien de plus qu'une chambre d'enregistrement pour des décisions prises ailleurs par le Conseil des ministres, qui fait office de gouvernement. Et derrière la façade des institutions du gouvernement français, comme derrière les institutions européennes, c'est le pouvoir de la bourgeoisie qui compte. Les vrais décisionnaires sont les hommes de cette grande bourgeoisie qui n'ont jamais été élus par personne, mais qui détiennent le pouvoir économique. Ce sont eux qui décident des fermetures d'usines, des investissements qu'ils jugent bon de faire, du nombre de chômeurs qui viendront grossir les rangs des demandeurs d'emploi demain. Et ce sont ces décisions qui façonnent le quotidien de toute la société. Alors toutes les assurances venues des institutions européennes pour expliquer que chaque nouveau traité a pour but, je cite, de faire progresser la démocratie, ne confèrent pas à l'Union européenne un caractère plus démocratique que celui des États qui la composent. Celle-ci reste l'instrument de la politique des bourgeoisies les plus puissantes d'Europe. Car une autre des caractéristiques de cette Europe,
et de refléter les rapports de force impérialistes, y compris en son sein. L'élargissement de l'Union européenne aux pays les plus pauvres de l'Est, après la dislocation de l'URSS, a confirmé que l'Union englobe des pays impérialistes dominants et des pays plus faibles économiquement dans une même entité où les rapports de domination ne disparaissent pas. Militants communistes révolutionnaires, nous sommes partisans de la plus large unification d'un bout à l'autre de l'Europe, alors qu'aujourd'hui, une large partie du continent en est exclue, de la Russie à l'Ukraine en passant par la Turquie. La disparition complète des frontières et des barbelés n'est pas seulement une question de logique allant de pair avec l'interdépendance économique entre les pays du continent. Elle serait également un progrès pour le camp des exploités, pour l'ensemble des travailleurs européens qui pourraient unir leurs forces et leurs combats face à leurs exploiteurs communs. Mais l'Union européenne des capitalistes, qui se félicite des progrès de son élargissement, est loin de supprimer les barrières entre les peuples d'Europe. Elle est même encore plus divisée en cette première décennie du XXIe siècle qu'il y a un siècle. En 1914, l'Europe était divisée en 25 États. 100 ans plus tard, après 2 guerres mondiales qui ont entraîné autant de marchandages et de repartages du monde en différentes sphères d'influence par les grandes puissances impérialistes, l'Europe compte 2 fois plus d'États et autant de frontières séparant ce petit bout de continent. La multiplication d'États, voire de micro-États, loin de favoriser la paix et la libération des peuples, a le plus souvent généré une oppression plus grande encore. La naissance de nouveaux États a effectivement créé de nouvelles minorités nationales, victimes de la surenchère nationaliste. Sorte de presqu'île avancée du continent asiatique, l'Europe est certes difficile à délimiter au niveau géographique. Mais les débats autour de l'intégration de nouveaux pays n'ont rien de géographique. En se refusant à intégrer l'ensemble des pays du continent, l'Union, qui porte décidément bien mal son nom, a rajouté des barrières aux frontières existantes, a créé des situations absurdes supplémentaires, pour des populations identiques et mêlées, celles-ci pouvant se retrouver dans des pays dont certains appartiennent à l'Union et d'autres non. Le débat autour de l'intégration éventuelle de la Turquie est un exemple de l'hypocrisie de ces discussions. Certains justifient leur réticence par le fait que la Turquie serait plus asiatique qu'européenne. Les mêmes ne voient aucun problème à définir Tahiti ou les Antilles françaises comme faisant partie de l'Europe. En réalité, si les bourgeoisies occidentales sont tout à fait d'accord pour obtenir un accès privilégié au vaste marché intérieur turc et pour bénéficier d'accords de partenariat et d'échanges favorables, la Turquie reste un gros morceau à avaler pour les institutions de l'Union européenne. Avec ses 77 millions d'habitants, elle pourrait prétendre à une représentativité qui poserait problème aux puissances impérialistes européennes dans l'équilibre politique de l'Union. À l'est de l'Europe, si un certain nombre de pays figurent parmi les plus récemment intégrés à l'Union, le problème ne se règle pas plus facilement. Dès la dislocation de la zone d'influence de l'URSS, à partir de 1989, les différentes bourgeoisies occidentales purent s'accaparer tout ce qui pouvait rapporter du profit dans ces pays. Par la suite, l'intégration à l'Union de 10 pays, parmi lesquels la Pologne et la Hongrie en 2004, puis de la Bulgarie et de la Roumanie en 2007, fut le prétexte à des cures d'austérité faisant exploser le chômage et la pauvreté. Les économies de ces pays européens plus pauvres sont tombées dans l'escarcelle des bourgeoisies d'Europe occidentale et mondiale et constituent un nouveau champ de bataille pour les grands groupes. Ces dernières années, les riches terres agricoles roumaines ont par exemple éveillé la convoitise des investisseurs parmi lesquels les Européens se taillent la part belle. Des trusts agroalimentaires français comme Limagrain ou Bonduelle disputent les 10 millions d'hectares de terres arables disponibles à bas prix à des fonds d'investissement britanniques comme Velcourt CRL. Cette course au profit entre grands groupes a pour conséquence la disparition des petits paysans roumains, mais aussi la corruption des autorités locales achetées par les groupes concurrents. Et un processus identique se déroule en Ukraine. Chaque élargissement se fait sous la domination économique et le contrôle politique de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne et de la France. Mais l'intégration entraîne des problèmes politiques pour les nouveaux États entrants comme pour les membres de l'Union. Et l'une de leurs manifestations est la montée généralisée de l'extrême droite. Sur fond d'aggravation de la crise, les idées ultranationalistes et xénophobes se développent et les partis réformistes, qui laissent les travailleurs sans perspective ou appliquent eux-mêmes une politique anti-ouvrière quand ils sont au pouvoir, laissent le champ libre à ceux qui pointent du doigt les étrangers, les Roms, l'Europe, comme responsables de tous les maux. Dans les pays les plus pauvres d'Europe, des groupes comme Obdoré en Grèce, le Jobbik en Hongrie, peuvent s'appuyer sur la mainmise réelle des grands groupes capitalistes européens sur l'économie et sur la cure d'austérité imposée par la Troïka. Autant d'arguments qui leur permettent de désigner l'Europe pour seule responsable de la misère grandissante de la population, en dédouanant par la même occasion les bourgeoisies et les États nationaux. Pas plus qu'elle n'a supprimé la guerre économique que se livrent les trusts européens, l'Union européenne ne garantit la paix entre les peuples d'Europe. Des discours inspirés des politiciens de droite à ceux de gauche nous assurent pourtant que l'Union européenne, c'est la garantie d'un continent en paix. Au moment du référendum pour la Constitution européenne en 2005, c'était même l'un des arguments principaux des tenants du oui. Voter non, c'est voter Auschwitz, à la même jusqu'à s'exclamer le centriste Jean-Marie Cavada, tandis que Strauss-Kahn s'extasiait, je le cite, « En 50 ans, nous avons bâti un espace de paix organisé par la raison et le droit, et non par les canons. » Et en 2012, l'Union européenne a même reçu le prix Nobel de la paix pour l'audace, je cite, « pour l'audace et le courage démontrés depuis 1950 dans la construction d'une Europe sans guerre. » La démonstration a sans doute échappé aux peuples victimes des interventions, coordonnées ou non, des différents pays de l'Union pour faire régner leur ordre sur la planète, ou à ceux de l'ex-Yougoslavie, déchirés par une guerre civile atroce sur le territoire même de l'Europe. Le dernier membre en date de l'Union européenne, la Croatie, est d'ailleurs né en 1991, après 10 ans de cette guerre. L'éclatement de l'ex-Yougoslavie est dû avant tout à l'appétit des dirigeants locaux qui mirent à profit la mort de Tito, l'ancien dirigeant de la Yougoslavie, pour commencer dans les années 80 à se tailler leur propre fief, quitte à encourager les sentiments nationalistes et xénophobes les plus réactionnaires et à provoquer des massacres. Mais les puissances impérialistes occidentales, et en particulier la France et l'Allemagne, en furent d'actifs complices. La décomposition de la Yougoslavie leur permettait en effet de se forger une zone d'influence propre. L'Allemagne soutint dès le début le séparatisme des dirigeants slovènes et croates, tandis que la France soutenait la Serbie. L'Ukraine est-elle promise à une évolution de ce genre? Les événements actuels sont en tout cas significatifs de ce qu'est la politique impérialiste. En impérialisme de second ordre, derrière les États-Unis, les puissances européennes cherchent à jouer un rôle. À en croire les commentaires de la presse occidentale, les choses seraient aussi simples que dans un mauvais western. Il y aurait d'un côté le camp démocrate, soutenu par les valeureuses démocraties occidentales, démocrates ayant renversé un pouvoir dictatorial d'oligarques, appuyé par Poutine, qui représente donc, vous l'aurez compris, les forces du mal. Remarquons d'abord que l'Union européenne n'a jamais été jusqu'à proposer à l'Ukraine d'être intégrée à l'Union. Tout au plus a-t-elle proposé un accord de partenariat oriental qui favorisait l'accès au marché ukrainien et aux secteurs les plus rentables de son économie, au grand trust de l'Union européenne, sans même offrir en contrepartie les quelques avantages liés à l'intégration dans l'Union. Disons ensuite que si le régime corrompu de Yanukovych est tombé grâce à la mobilisation d'une partie de la population ukrainienne, le nouveau gouvernement mis en place à Kiev, avec la bénédiction des Occidentaux, représente tout autant les intérêts d'oligarques et de vautours qui continueront à dépecer l'économie en y associant les trusts européens. Le tout en faisant payer la population, d'ores et déjà prévenu par le nouveau Premier ministre que de sévères sacrifices étaient à prévoir. Quant aux droits démocratiques de la population, confiés à un pouvoir qui s'appuie largement sur l'extrême droite ultranationaliste, ils ne sont pas prêts de devenir réalité. Le simple fait que la première mesure votée sous le nouveau gouvernement soit l'interdiction des autres langues que l'ukrainien en tant que langue officielle en est tout un symbole. Face aux puissances occidentales, la Russie de Poutine joue sa propre partition. Dans cette lutte de pouvoir, si elle a perdu son influence sur l'Ukraine, elle a pu sauver les meubles en récupérant la Crimée, ce qui a été confirmé par le référendum par lequel cette région a très largement approuvé son rattachement à la Russie. La majorité des habitants de Crimée préfèrent effectivement dépendre de Moscou plutôt que de Kiev, pour des raisons culturelles, historiques et linguistiques, mais aussi parce que le niveau de vie est plus élevé en Russie qu'en Ukraine. La politique de Poutine n'est bien sûr pas plus dictée par le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes que ne l'est celle des puissances occidentales. L'effroyable guerre menée dans le Caucase contre l'indépendance de la Tchétchénie suffirait à le rappeler. Mais ce n'est pas le problème de l'Union européenne et des États-Unis qui font mine de s'indigner de l'intervention russe et du prétexte brandi par Poutine de protéger les populations russophones, alors qu'elles n'ont de cesse de faire intervenir leurs diplomates, leurs hommes politiques pour faire basculer l'Ukraine dans le camp occidental. Quant aux discussions sur les sanctions à prendre contre la Russie, elles sont significatives, elles aussi. Car il s'agit d'avoir l'air de prendre des mesures à la hauteur des cris d'indignation, sans pour autant cesser les bonnes affaires que chacun des trois grands impérialismes européens a conclues avec la Russie. L'Union européenne demeure donc frileuse, c'est le moins qu'on puisse dire, quant aux sanctions économiques, car comme le résumait le président du Parlement européen, Martin Schulz, le 23 mars dernier, je cite, « On connaît les intérêts hétérogènes des États membres, la dépendance économique considérable de certains États, les intérêts financiers d'autres et la situation de ceux qui veulent protéger leurs investissements. » Alors s'il est difficile de dire jusqu'où iront les affrontements entre les grandes puissances occidentales et Poutine, on peut malheureusement être certain que la partition de l'Ukraine, la dégradation sociale, n'apporteront rien de bon aux travailleurs et aux classes populaires de ce pays, quelle que soit la langue qu'ils parlent et la région qu'ils habitent. À l'heure de la mondialisation, alors que l'Europe constitue un ensemble aux peuples entremêlés par des siècles d'histoire commune et aux économies interdépendantes, ensemble lui-même largement lié économiquement et humainement au reste de la planète, la multiplication des frontières prend un caractère d'autant plus dramatique avec l'aggravation de la crise et le nationalisme un tour de plus en plus réactionnaire. Partout en Europe, des groupes politiques jouent la carte du repli nationaliste, voire régionaliste. Les nationalistes catalans, qui réclament un référendum sur l'indépendance de la Catalogne, le font au nom de la prospérité de la région par rapport au reste de l'Espagne. Des propos qui rappellent ceux de la Ligue du Nord en Italie, qui demande à se séparer des feignants du sud du pays. Dans un texte intitulé « Programme de paix », Trotsky s'exprimait sur le droit à l'autodétermination des peuples d'Europe, et en particulier des peuples d'Europe centrale, en expliquant que les droits nationaux légitimes des peuples, c'est-à-dire leurs droits culturels et linguistiques, ne pouvaient être garantis par des frontières les opposant les uns aux autres économiquement et créant fatalement de nouvelles minorités ethniques au sein de peuples entremêlés. Et il affirmait, je le cite, « C'est seulement dans l'union économique des pays européens, libérés des contraintes douanières, qu'il est possible de faire vivre une culture nationale et un développement débarrassé des antagonismes nationaux et économiques. » Bien sûr, ajoutait Trotsky, ces questions ne pouvaient être réglées par la bourgeoisie, mais par la révolution prolétarienne européenne. Écrit en 1917, alors que les bourgeoisies impérialistes jetaient des millions de travailleurs dans la boue des tranchées au nom de la liberté et de la défense du droit des nations, ce texte n'a rien perdu de son actualité presque un siècle plus tard. Cette Europe, qui compte aujourd'hui le double de frontières qu'il y a un siècle, s'est entourée de barbelés a construit des murs, multiplié les obstacles à la libre circulation des hommes. Pour les quelques facilités de circulation accordées aux ressortissants de l'Union européenne au sein du petit espace Schengen, l'Europe capitaliste a multiplié d'autres barrières. L'Europe, qui a derrière elle des siècles d'histoire commune avec l'ensemble du bassin méditerranéen, avec l'Afrique, s'érige en forteresse, en îlot cherchant à s'isoler et à se protéger de la pauvreté des régions du monde qu'elle a pillées pour construire sa domination et sa richesse. Tous les États membres ont durci leurs lois pour rendre l'immigration légale pratiquement impossible et grossir le nombre de femmes, d'hommes, d'enfants contraints de risquer leur vie pour tenter leur chance en Europe. Mais il n'y a pas que dans le domaine de l'immigration que les institutions européennes laissent les États mener les politiques les plus rétrogrades. Partout où elles pourraient jouer un rôle progressiste, elles se montrent tolérantes envers les idées et les lois les plus réactionnaires. En matière de politique familiale, l'Union européenne avoue ne disposer que de compétences très limitées. Voilà pourtant un domaine qui ne coûterait rien à la bourgeoisie et qui aurait au moins le mérite d'accorder des droits fondamentaux si les institutions européennes voulaient batailler pour appliquer les législations les plus progressistes. Mais pas question d'aller chatouiller les réactionnaires de tout poil et de tout pays membre. Ainsi, Malte, intégrée à l'Union européenne en 2004, a conservé l'interdiction du divorce jusqu'en 2011. Quant à l'avortement, il est toujours totalement interdit, passible de 3 ans de prison à Malte, interdit en Pologne et en Irlande, sauf en cas de viol, d'inceste ou de mise en danger de la vie de la femme, et remis sérieusement en cause aujourd'hui en Espagne. On le voit, le droit élémentaire des femmes à disposer de leur corps ne figure pas parmi les préoccupations de l'Union. Et comble d'ironie, la seule fois où la France a été condamnée pour discrimination envers les femmes par les autorités européennes, eh bien ce fut pour lever l'interdiction du travail de nuit des femmes. C'est au nom de l'égalité homme-femme que l'Union européenne a débarrassé le patronat français de cette obligation qu'il avait à trouver des moyens de contourner la loi d'interdiction de travail de nuit des femmes, donc, alignant ainsi femmes et hommes sur la législation la moins protectrice de la santé des travailleurs. Et on va s'arrêter là pour une petite pause.